Alors bonjour tout le monde, bonjour à toutes les personnes qui écouteront cet enregistrement. Alors pour rappel, ces podcasts font suite à une journée d'études qui s'est déroulée l'année dernière, en novembre 2021. Une journée d'études destinée aux doctorants, doctorantes, jeunes chercheurs et jeunes chercheuses et qui s'intéressait à la construction de l'objet durant la thèse. Alors je serai l'animatrice de ce podcast du jour. Je suis Orlane Messé, doctorante en sociologie du sport à l'UFR Staps de Besançon. Au sein du laboratoire C3S, culture, sport, société, santé. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir en présentiel Marie Carré, qui est doctorante au sein du laboratoire SAGE à Strasbourg, donc c'est le laboratoire société, acteurs, gouvernement en Europe, mais également à l'IRS, l'Institut de recherche sociologique à Genève. Et donc... Marie, voilà, est-ce que tu peux nous dire très brièvement sur quoi tu travailles ? Voilà, quel est l'objet de ta thèse ?
Salut Arnane, bonjour à tous. Déjà, merci de m'avoir invitée pour le podcast, je suis très contente. C'est la première fois que je fais cet exercice de podcast et je trouve que c'est super chouette d'avoir d'autres supports que juste les communications scientifiques pour pouvoir parler autour de la recherche. Donc oui, moi je suis doctorante en deuxième année en sciences politiques. Alors, mon sujet, il est à mi-chemin entre la science politique et la sociologie. En fait, je m'intéresse à la mobilité transfrontalière vue à travers les lunettes de l'impôt. Concrètement, je me demande comment est-ce que la mobilité transfrontalière, elle est traitée par l'administration fiscale qui pense la mobilité plutôt à travers le prisme de la résidence, donc plutôt à travers la preuve de l'établissement pérenne en France. En fait, je suis partie un peu d'un espèce de paradoxe entre, d'un côté, la mobilité construite, c'est-à-dire celle de l'administration fiscale qui regarde avec les lunettes de la résidence, et de l'autre côté, la mobilité vécue, celle des travailleurs frontaliers qui, en fait, quand on leur demande un des principaux éléments de leur mode de vie, en général, ils nous répondent en fait, c'est plutôt les trajets entre la résidence et puis le lieu de travail. Donc plutôt des mouvements de va-et-vient entre résidence et travail. Alors, pourquoi le sujet de mobilité transfrontalière ? J'ai vraiment beaucoup de mal à répondre à cette question, moi, parce que je ne saurais pas retracer, en fait, pourquoi et quand est venu cet intérêt pour mon sujet. Je dirais qu'il y a deux éléments qui sont rentrés en ligne de compte. Le premier, c'est déjà que moi, je viens de la région de Franche-Comté, qui est une région transfrontalière avec la Suisse. Donc, dans ma famille, dans mon entourage plus ou moins proche, j'ai toujours été sensibilisée, en fait, à la question transfrontalière. Et surtout, la possibilité de partir en Suisse, entre guillemets, a toujours été un des horizons possibles depuis même au lycée. On en parlait, par exemple. Et puis le deuxième élément, je dirais que c'est ma trajectoire scolaire. J'ai fait une grande partie j'ai fait d'abord une licence de droit, donc qui m'a pas mal familiarisée avec les questions de droit, notamment de droit fiscal. Et puis ensuite, j'ai fait Sciences Po, où là, je me suis vraiment passionnée pour la sociologie. Et donc, je me suis dit que j'avais bien envie, en fait, de faire un mémoire qui allie ces deux types de compétences, ces deux bagages-là. Et je trouvais que la thématique de l'impôt, elle était intéressante parce que, en fait, la thématique de l'impôt, il ne s'agit pas juste d'étudier comment est-ce qu'on prélève un revenu. Il s'agit aussi de comprendre qu'est-ce qui se joue derrière ça. Et on sait très bien que derrière le salaire, en fait, c'est aussi des enjeux de distinction, quoi. Donc voilà, je dirais que c'est vraiment ces deux points-là qui m'ont mené à ce sujet.
Super. Et donc, voilà, j'ai des toutes petites questions avant de continuer. En quelle année de thèse tu es ? Et puis, voilà, si tu pouvais nous parler très brièvement de ton financement, si tu es financée, ou est-ce que tu as monté toi-même un projet pour pouvoir mener ton recherche ?
Donc, du coup, là, je suis en fin de deuxième année de thèse. Et alors, pour le financement, moi, j'ai un contrat doctoral financé. En fait, j'ai eu de la chance, juste à la fin de mon mémoire de master, j'ai postulé à une bourse de thèse auprès de l'école doctorale à Strasbourg. Et j'ai eu le concours. Donc, du coup, j'ai eu un financement pendant 3 ans où tu fais ta thèse et puis en même temps, tu donnes des enseignements.
D'accord, ok. Voilà. Et donc, tu donnes des cours en sciences politiques ?
Je donne des cours d'introduction à la science politique et d'introduction à la socio.
D'accord,
à Strasbourg.
Ok, ouais. Super. Et donc, du coup, pourquoi tu as candidaté à notre appel à communication?
Pourquoi? Eh ben, je dirais que c'est un peu à l'image de ce que vous êtes en train de faire pour le podcast. Je trouvais qu'en fait, l'idée de parler des difficultés de terrain et de la construction même, en fait, de quelque chose de très matériel et très tangible, en fait, la construction même de l'objet de recherche, c'était quelque chose qu'on voyait assez peu, ou en tout cas qu'on présentait de manière assez naturalisée en sociologie, alors que pour moi, c'est tout sauf simple. C'est même l'élément le plus difficile, je dirais, moi, dans ma thèse. Et donc, prendre un petit peu la thèse par ses difficultés, ses heures, etc., je trouvais que c'était très, très intéressant. Donc, ouais, j'avais très envie de postuler. J'étais très contente, d'ailleurs, quand vous m'avez dit que c'était OK.
Alors, est-ce que tu pourrais commencer par nous parler des débuts de ta recherche? Donc voilà, donc tu as fait déjà un master, un mémoire de master sur un petit peu sur ce sujet-là.
Oui.
Donc voilà, est-ce que tu peux déjà nous en parler? Alors voilà, aussi bien durant ta première année de thèse ou du mémoire, voilà, c'est un peu toi qui vois comment ça s'est passé, les débuts, l'entrée sur le terrain.
Ouais, mais je peux parler de la progression générale, en fait, notamment entre le mémoire le mémoire de master et la première année de thèse déjà, et puis ensuite la seconde. Alors moi, du coup, j'ai fait un mémoire sur le rapport à l'impôt des transfrontaliers. Donc, mon angle d'attaque, c'était vraiment d'observer l'impôt à travers les lunettes de la mobilité transfrontalière. Ça m'a beaucoup intéressée, j'avais pas mal d'éléments, j'avais l'impression qu'il y avait aussi beaucoup de pistes au final qui étaient inexplorées et assez imparfaites dans mon mémoire. Et donc, j'ai fait un projet de thèse assez béton, puisqu'il se basait presque exclusivement sur mon mémoire et sur les pistes qui étaient encore inexplorées, avec un squelette très, très précis. Je savais, donc par exemple, je savais que je voulais continuer dans cette voie de l'observation du rapport à l'impôt dans la mobilité transfrontalière. J'avais calibré 3 dispositifs d'enquête. Un premier, c'était explorer plutôt comment est-ce que cet impôt, il était calibré et transformé dans un vocabulaire juridique au sein de l'administration fiscale. Un deuxième dispositif qui concernait plutôt les associations. Je m'étais rendu compte dans mon mémoire qu'en fait, les frontaliers faisaient beaucoup appel aux associations pour se faire aider dans les démarches administratives, etc., mais aussi pour créer un peu une cohésion et puis affirmer un peu de manière collective leur situation qui était tout sauf simple et qui n'allait pas de soi. Et donc, je savais que je voulais contacter 2 associations qui sont très, très, très actives, en fait, dans le domaine des transfrontaliers. Et puis, j'avais un troisième dispositif d'enquête qui était celui que j'avais le plus exploré dans mon mémoire, des entretiens semi-directifs avec des contribuables pour savoir... comment est-ce qu'ils sont arrivés, toute une partie sur comment est-ce qu'ils en sont arrivés à devenir frontaliers, qu'est-ce qui les attirait, etc. dedans, et puis faire ensuite le lien entre cette trajectoire de mobilité avec qu'est-ce qu'ils pensent de l'impôt, qu'est-ce qu'ils pensent des impôts en France par rapport à ceux en Suisse, etc. Donc ça, c'était le tout début. Ce à quoi j'avais pas vraiment pensé, en fait, c'était comment faire le pont entre ce qui, moi, m'intéressait vraiment, qui, en fait, n'était pas vraiment l'impôt, mais plutôt la mobilité, et le fait de le travailler à travers un objet qui était assez contraignant, qui était l'impôt. Donc, en fait, au fur et à mesure de ma première année d'enquête, j'ai fait un espèce de petit pas de côté où je ne me focalisais plus sur l'impôt avec les lunettes de la mobilité, mais plutôt la mobilité avec les lunettes de l'impôt. Donc ça, c'était un premier pas de côté qui a été assez difficile pour moi puisque ça a nécessité énormément de lecture et puis surtout, ça a nécessité pas mal de réflexion pour me rendre compte, en fait, que j'inversais, en fait, ma dynamique. Donc j'inversais aussi mes questions, j'inversais aussi toute ma grille d'analyse, etc. Et puis aussi, j'avais pas vraiment... fait l'exercice de cadrer et de cibler l'enquête auprès des frontaliers. Donc, j'étais restée un peu dans ma dynamique de mémoire où j'essayais d'interviewer les gens que j'arrivais à contacter sans vraiment de cohérence. Et je pense que ça, c'était une petite erreur et j'ai dû faire un deuxième pas de côté qui est que, ben, en fait, quand je dis que j'analyse les frontaliers, qu'est-ce que j'entends par frontalier ? C'est tout bête, mais en fait, comment est-ce qu'on définit frontalier ? Est-ce que je définis frontalier à partir des personnes qui s'autodéclarent comme telles ? Est-ce que je définis frontalier à partir de ce que l'administration cible comme frontalier ? Est-ce que je cible frontalier en tant que catégorie d'analyse sociologique, auquel cas il faut que je précise à partir de quels critères en fait je circonscris cette définition, etc. Donc ça, c'est un choix aussi qui m'a été un peu difficile parce que je savais pas comment m'y prendre en fait, hein, clairement.
Et donc, du coup, est-ce que tu commences à nous présenter, dans tout ce que tu viens de dire, les problématiques auxquelles tu t'es confrontée, ou est-ce que ça a été une première période de difficulté ?
Je dirais que ça a été une des premières périodes de difficulté. En fait, pour moi, la manière dont je présente l'objet est un peu indissociable aussi de la manière dont je peux présenter les difficultés que j'ai sur le terrain et sur la méthode. Parce que je pense que c'est parce que tu as des difficultés sur le terrain que tu peux construire ensuite ton objet et te retourner en fait et voir ah ben en fait j'ai fait tel choix parce que du coup c'est cohérent avec telle autre thématique et c'est ces liens là en fait qui te permettent aussi de construire. Donc je dirais que c'était la première période de difficulté, ouais.
Ok.
Durant la première année de thèse.
Ah super. Donc du coup tu nous parleras peut-être d'une deuxième vague de difficultés, celle que tu avais plus en détail abordé lors de ce que tu avais communiqué. Et du coup, j'avais une toute petite question là, quand tu dis que tu as fait une erreur. Est-ce que tu penses vraiment avoir fait une erreur, ou est-ce qu'à un moment donné, il fallait que tu te confrontes à quelque chose ? Est-ce que c'est une erreur, ou est-ce que finalement, tu ne creusais pas ton objet ?
C'est une bonne question, j'arrive pas trop à savoir. Je dis que c'est une erreur au sens où j'ai l'impression que ça m'a fait perdre du temps.
Oui, c'est ce que...
Ça m'a pris beaucoup de temps pour me rendre compte de comment je voulais traiter mon sujet. Après, en fait, peut-être que c'en est pas vraiment une. Je sais pas, moi, j'imagine ça de manière très... très... très imagée. Je me dis qu'il y a des objets où on part d'un point A et puis on arrive à un point B. Et puis, il y a des objets où on a un point A. Et puis, en fait, il faut qu'on retourne à la source pour comprendre pourquoi on a pris ce point A. Sauf que quand on retourne à la source, on a l'impression de faire du surplace, alors qu'en fait, non. C'est juste qu'on a eu besoin de repartir d'un peu plus en amont pour comprendre ce qui se passait et comment est-ce qu'effectivement on avait construit quelque chose.
Ouais, voilà. Super. Super. Alors, bon, là, je te laisse nous aborder ta deuxième...
Ouais, voilà. La deuxième partie, du coup, la deuxième grande phase de difficulté. Ouais. qui est pour resituer sur le premier dispositif d'enquête qui était sur l'administration fiscale. Moi, j'aime toute une partie de ma thèse où je m'intéresse à comment est-ce que l'administration fiscale elle catégorise la mobilité transfrontalière, etc. Et donc, pour ça, j'ai voulu faire deux stages dans l'administration. Alors, ça ne s'appelle pas des stages, hein, ça s'appelle des périodes d'observation puisqu'on n'a pas le droit de faire de stage dans le cadre d'une thèse financière. Donc ça aussi, ça a été... On pourra y revenir si tu veux, mais c'est moins intéressant, je trouve. Mais c'est aussi toutes des questions pratiques et techniques qui sont importantes, hein, parce que ça prend énormément de temps dans la thèse de faire des dialogues, en fait, entre l'administration et toi. mais donc, en fait, j'ai finalement intégré... un service de l'administration qui est un service dit central où j'ai passé un mois qui m'a fait beaucoup avancer mais qui a été extrêmement dur pour moi. J'ai eu plein de difficultés, mais moi j'ai l'impression qu'il y en a principalement, il en ressort trois, en tout cas elles sont de trois ordres. Première difficulté, c'est au niveau épistémologique. C'est que moi j'avais pas bien, je pense, calibré ce que j'entendais par frontalier. Et l'administration ne reconnaît pas les contribuables frontaliers. C'est-à-dire que quand j'explique aux agents, moi je m'intéresse aux contribuables frontaliers, le premier élément qui vient en tête, c'est nous, on ne sait pas ce que c'est, on ne reconnaît pas les frontaliers, ça n'existe pas. C'est une catégorie d'action publique qui n'existe pas. Donc ça a été le premier élément, c'est du coup, comment est-ce que je traduis mon dispositif d'enquête dans un langage bureaucratique. Ça a été extrêmement compliqué parce qu'en fait, ça marche par tâtonnement. Moi, je connaissais pas exactement les codes et l'entre-soi fonctionnaire. J'ai jamais été fonctionnaire à la DGFiP, donc je savais pas exactement comment ça se passait. Donc, il m'a fallu quand même vraiment plusieurs jours, je dirais une bonne semaine, voire 15 jours, pour comprendre et m'ajuster un peu à ces différences en fait de définition. Et ça m'a poussée aussi, moi, à savoir exactement ce que j'entendais par frontalier, du coup. Et en fait, ce que j'entendais par frontalier, c'est pas uniquement quelqu'un qui traverse la frontière. C'est quelqu'un qui traverse la frontière, qui paye ses impôts en France et qui se déclare comme contribuable en France. Donc, c'est ces trois éléments qu'on dit. Deuxième point vraiment très important et qui a été très délicat, c'est le point de vue légal, en fait. C'est l'administration fiscale, c'est une des administrations qui est la plus réglementée et donc on n'y entre pas comme ça. J'ai été soumise à beaucoup de discussions, de négociations sur ce que je pouvais dire, ce que je pouvais pas dire. On est tenu au secret des données fiscales et en fait, même si moi je m'intéresse pas à ces données sensibles, ça m'intéresse pas de savoir exactement combien gagne telle personne, mais je suis amenée à manipuler des documents où il y a des données qui pourraient être sensibles. Et donc, la question de comment manipuler ces documents en restant dans le cadre légal était très important. Et ce cadre légal, il s'est imposé à moi-même plus tard quand j'ai fait des archives, notamment des archives sur l'administration, puisque c'était les mêmes problèmes, en fait, les mêmes problématiques de comment manipuler un document qui, tel quel, à l'état brut, n'est pas manipulable. Et puis, le troisième élément qui a été aussi une difficulté, en tout cas vécu comme une difficulté sur le coup, c'est le côté relationnel. C'est la prise de contact avec l'administration a été assez longue. J'ai fait des grandes recherches en amont pour savoir qui contacter, quels seraient mes interlocuteurs. Et puis, une fois sur place, il faut tisser des liens. Il faut tisser des liens avec la posture de chercheur qui est parfois un petit peu compliquée puisqu'en même temps, on est extérieur à l'institution. En même temps, il faut qu'on soit suffisamment intégré pour tisser des liens de confiance quand même. Et puis, laisser un peu l'espace de discussion ouvert. Voilà. Trois points.
Et donc, j'aurais des petites questions, mais pourquoi, quel était leur intérêt du coup à ces institutions que tu viennes mener une période d'observation? Enfin voilà, clairement, pourquoi ils ont accepté que tu y ailles?
Ouais, c'est une très bonne question, puisque moi, c'est quelque chose que j'avais même pas en tête, tu vois. Au début, j'ai contacté, en fait, en me disant, ils vont accepter, parce que politique de transparence de l'administration, pas de souci. Et non, effectivement, il faut que ça coûte, en fait, du temps, de l'énergie, d'accueillir quelqu'un. Donc moi, quand j'ai compris que l'administration, elle n'était pas trop OK avec l'idée que je vienne comme ça... Sans
aucun service infiltré.
Voilà, c'est une position qui est un peu, je pense, un peu particulière et qui génère plus de méfiance. Et je me suis un petit peu impliquée, en tout cas impliquée un peu plus, et j'ai fait un peu la technique de mouse, quoi, la technique du don contre don. Et donc, en fait, ce que je leur ai proposé, c'est de les aider dans des petites analyses quantitatives sur les contribuables qui m'intéressaient, qui les intéressaient, en revoyant un peu des questionnaires pour qu'ils soient formulées d'une manière un peu plus neutre, etc. Donc j'aurais fait des petites propositions, j'ai fait des petits comptes rendus, etc. Je reste un peu évasive parce qu'en fait je sais pas dans quelle mesure j'ai le droit de préciser ou pas. Donc voilà, mais du coup effectivement j'ai quand même rendu 2-3 travaux pour eux.
Et comment tu leur as vendu ton enquête? Tu leur as dit quoi? Enfin, tu leur as dit voilà, j'enquête sur les contribuables et je voudrais savoir blabla. Enfin voilà, comment tu as vendu ton objet?
Alors, je sais pas si je dirais que je l'ai vendu puisque je pense que j'ai pas eu besoin de le faire au sens où je suis tombée sur quelqu'un d'assez compréhensif et puis je dirais que je l'ai plutôt amené de telle sorte que c'était un moyen pour eux d'avoir une forme de visibilité sans être mis en danger.
Ok.
Voilà. J'ai tout de suite, par exemple, je leur ai pas dit que j'enquêtais l'administration fiscale, Ce qui n'est pas faux en soi, j'enquête pas en tant que telle l'administration, j'enquête les contribuables. Mais je leur ai pas dit que je me concentrais sur comment est-ce que les agents faisaient au quotidien, avec les lois, etc. Je leur ai vraiment dit dès le départ que j'enquêtais sur les contribuables et j'enquêtais plus particulièrement sur le consentement à l'impôt. Donc en fait, j'ai retraduit un peu mon objet en quelque chose, en un cadrage un peu plus légal qui pourrait éventuellement être un peu mieux compris, je pense. Et puis surtout, moi, ce qui était important pour moi, c'est que mon interlocuteur, ou là, en l'occurrence, mon interlocutrice, comprenne que j'étais pas là pour évaluer ou juger l'administration, mais uniquement pour comprendre, en fait, et puis pour apprendre aussi. J'étais un petit peu dans la posture de l'apprenante. Hein.
Ok. Donc, est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais trouver ?
Ben, je pensais savoir
ouais.
Ce que je voulais trouver, qui était comprendre comment l'administration mettait en musique ce prisme de la résidence pour nommer au final ce qui était de la mobilité transfrontalière. Donc je savais que je voulais observer ça. Après, sur le comment est-ce que je voulais l'observer, c'était plus flou. Je savais que je voulais aussi me baser principalement sur l'interaction au guichet, donc entre les agents et les contribuables, parce que ce qui m'intéressait avant tout, c'est de comprendre comment est-ce que les contribuables, ils arrivaient à interpréter la norme, à la comprendre, à l'accepter ou pas, quelle réaction ça suscitait, etc. Mais je n'en savais pas trop plus et j'étais un petit peu déboussolée, moi, parce que j'ai eu tendance aussi à me laisser pas mal happer par le vocabulaire juridique, en fait. C'est très difficile, je trouve, dans des thèses où on manipule beaucoup, beaucoup de normes, de normes au sens légal, d'arriver à prendre de la distance sociologique sur la norme pour savoir quels sont les enjeux, qu'est-ce que ça produit, etc. Donc, sur le coup, j'ai eu un peu de mal à me défaire un peu de ce tissu collant, quoi, qu'était le vocabulaire juridique. C'est seulement après, même bien après, plusieurs mois après, que j'ai objectivé aussi quelque part, en fait, les notes de terrain que j'avais fait où je parlais en termes très, très juridiques pour comprendre que, ben, en fait, ce que je recherchais, c'était pas tant cette espèce de décalage entre résidence, mobilité, etc., mais c'était plutôt savoir ce que ça produit sur le contribuable et puis comment est-ce que, du coup, il arrive à jouer au quotidien ou pas sur cette norme-là, puis quelle marge de manœuvre l'agent met en place ou pas, ce qui relève un peu du pouvoir discrétionnaire, en fait. Hein, donc, voilà.
Et donc, du coup, donc là, tu nous as expliqué que tu t'étais confrontée à, alors, peut-être des inconforts. Je ne sais pas si tu as parlé de blocage. En tout cas, c'est vrai que lors de ta communication, tu nous avais parlé, alors je ne sais pas si on peut en parler là aujourd'hui, tu avais trouvé un petit peu des stratégies, des détournements finalement de certains obstacles en fait pour te faire accès, pour que tu aies accès à des données auxquelles tu n'avais pas le droit parce que finalement c'était difficile parfois d'entrer en interaction avec le personnel finalement.
Ouais.
Donc, ouais, c'était peut-être, je ne sais pas si on peut appeler ça lorsque tu as levé finalement des barrières ou peut-être ouais, tu les as, comment on appelle ça
Je les ai contournées.
Ouais, tu as contourné finalement certains blocages, quoi. Donc, ouais. Si tu peux nous en parler.
Ouais, mais je pense que je n'ai vraiment pas contourné tous les blocages, hein, il m'en reste encore beaucoup, mais je pense que j'ai contourné certains blocages, surtout en détournant, entre guillemets, le silence qui, en fait, était de mise sur pas mal d'éléments. Le premier, c'est pour reprendre, du coup, ce que je disais tout à l'heure sur la contrainte légale et notamment la non-utilisation de certains documents que j'avais obtenus par ailleurs par certains agents sans avoir un consentement explicite de la direction qui, je pense quand même est nécessaire. J'arrive toujours pas à déterminer si le consentement simple d'un agent suffit ou s'il fallait celui de la direction. Par précaution, par déontologie vis-à-vis des agents, j'ai préféré ne pas les utiliser en fait parce que je savais pas dans quelle mesure c'était ok. Je les ai mis de côté. En revanche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ces documents dans des entretiens. sans vraiment les mentionner et laisser le libre la personne avec qui je m'entretenais d'en parler ou non et avec la précision qu'elle avait envie. Et donc, c'est un moyen, en fait, d'utiliser ces documents, mais pas de manière brute, en fait, de manière très indirecte. Et puis aussi à travers le point de vue d'un fonctionnaire, donc aussi avec tous les éléments de cadrage et de marge de manœuvre qui sont permises, quoi. Donc, c'était très intéressant, au final, cet élément-là. Ça permet aussi d'éviter, en fait, une contrainte qui, de prime abord, moi, m'apparaissait comme... quelque chose qui compromettait complètement, en fait, mon observation. Hein. Donc, non, ça, c'était très intéressant.
Et donc, du coup, c'est vrai qu'en fait, là, tu disais, voilà, quand tu... Peut-être, ça t'a permis peut-être de réorienter ton sujet. Alors, en tout début, en introduction, tu nous parlais que tu rentrais au début par l'impôt et ensuite, tu t'es réorienté vers la mobilité. Est-ce que c'est possible de nous expliquer un petit peu plus, pas en détail, mais comment t'es passé finalement de l'impôt à la mobilité? Et est-ce que c'est finalement lorsque tu as réussi à te confronter, lorsque tu t'es confronté à ces problématiques, à ces blocages, à ce silence, que finalement tu as réussi à transformer un petit peu ton objet?
Oui, je pense que tu as tout à fait raison. C'est le fait même de me confronter à ce qui, moi, me paraissait comme un silence. Et ce qui me paraissait au début comme une forme d'opacité hein, de l'administration, qui était volontaire ou non, que j'ai pu réorienter mon sujet, et du coup aussi mon objet de recherche, en fait. J'ai eu 3 déclics. Le premier, ça a été, du coup, après le stage, je me suis rendu compte que, ce que moi, je considérais être comme de l'opacité ne l'était pas vraiment, en fait. C'était aussi juste et surtout... que moi, j'avais présenté mon sujet d'une manière dont l'administration pouvait comprendre que ce que je recherchais, c'était pas vraiment à enquêter des personnes, mais plutôt des revenus. Mmh. En fait, l'administration, effectivement, ne pense pas selon est-ce que la personne est frontalière ou non, mais plutôt quel est le type de revenu, est-ce que c'est un revenu en devise étrangère ou non. Donc ça, c'est un déplacement qui a été important pour moi, parce que du coup, je me suis rendu compte aussi que c'était pas vraiment l'administration qui présentait mal, entre guillemets, c'était moi, en fait, qui présentait mal et qui devait m'adapter à l'administration. Donc ça, c'était le premier pas de côté qui m'a permis de me rendre compte qu'en fait, l'administration pensait autrement et cette manière de penser selon les revenus et non selon les personnes, ça me faisait me dire que moi, du coup... il n'y avait pas de catégorie d'action publique de frontalier. Chose que je ne m'étais pas vraiment... dont je ne m'étais pas vraiment souciée avant. J'étais persuadée que si. Donc ça a été le premier élément. Premier déclic. Pas de catégorisation administrative de frontalier. Donc je ne pouvais plus prendre l'impôt à travers le prisme de la mobilité, puisque ça n'avait plus de sens s'il n'y avait pas de catégorisation de la mobilité. Donc c'est ça qui a commencé, où j'ai commencé à faire un peu le volte-face, où en fait je me suis dit non, c'est peut-être plutôt la mobilité que je recherche, et l'impôt c'est plus un prisme, c'est plus un terrain. Deuxième déclic, c'est avec les archives. En fait j'ai fait quelques mois d'archives pour compléter ce que j'avais observé au sein de l'administration, et cette fois-ci j'ai décidé de continuer un peu dans l'idée qu'effectivement il n'y avait pas de catégorisation en tant que telle, et que du coup... comment est-ce que les documents étaient classés à travers les archives, quels mots-clés étaient utilisés, etc. Et là, je me suis rendu compte que le seul mot-clé qui était prégnant et qui était discriminant pour savoir si c'était quelqu'un de frontalier ou pas, c'était la résidence et le revenu des salaires. Donc, je me suis rendu compte que c'était deux éléments qui revenaient et qui mettaient en termes juridiques ce qui était de l'ordre du vécu. Et ça a confirmé, du coup, qu'effectivement, il n'y avait pas de catégorisation. Et puis, troisième déclic, c'est en relisant toutes mes notes de terrain, j'ai réussi à me rendre compte que j'étais complètement happée par le vocabulaire juridique et à faire tout un travail derrière de lecture, notamment sociologique, notamment sociologie du droit, etc., pour essayer de distancier un peu ce que j'arrivais pas à distancer. Donc ça a été le troisième déclic qui m'a permis en fait d'acter le fait que j'observais vraiment la mobilité à travers l'impôt Et plus que ça, j'observais en fait l'expérience bureaucratique de la mobilité transfrontalière, l'expérience bureaucratique d'être frontalier. Voilà, je dirais que c'est les trois gros déclics qui, là, sont présentés de manière très cohérente, alors qu'ils ne l'étaient pas du tout, hein, mais ça m'a permis un peu de progresser, je pense, dans ce que je veux vraiment analyser.
Et concernant la question sur la distanciation vis-à-vis de l'objet, est-ce que... comment ça s'opère, ça, en fait? Est-ce que finalement, là, tu t'enfermes chez toi pendant une semaine, t'arrêtes de voir des personnes et voilà, t'essaies de te confronter, de faire macérer, finalement, ces données que tu as, mais que tu sais pas trop quoi en faire? Est-ce que c'est des lectures qui t'ont permis de te distancer? Comment tu réussis ça?
C'est une bonne question.
Peut-être
c'est
que
vrai qu'il y a trois éléments. Pardon, je t'ai
coupé. Non, vas-y.
Il y a trois éléments. Le premier, c'est que moi, j'ai besoin de relire ce que j'ai écrit sur le moment pour, bizarrement, hein, pour éviter de me remettre dans la condition dans laquelle j'étais quand j'ai écrit. Le fait d'écrire, j'ai l'impression d'être actrice. Et quand je relis plus tard, j'ai l'impression d'être spectatrice. Et c'est seulement dans cette posture de spectatrice que j'arrive à essayer de prendre un peu de distance par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à ce que j'ai ressenti, etc. Surtout que, sur le coup, j'avais l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, j'avais l'impression que j'étais dans un échec et que tout ce que j'écrivais, je ne pourrais pas le remobiliser. Donc, je l'avais quand même laissé de côté pendant plusieurs mois. Et quand je l'ai relu, il y avait même des choses que j'avais complètement oubliées. Donc, déjà, un, c'est, je dirais, la posture de spectatrice. Deux, c'est, cibler plus ou moins des lectures qui me semblaient intéressantes et qui retraçaient des expériences au sein même de l'administration. J'ai hiérarchisé aussi les types de lectures pendant un temps pour me concentrer et m'immerger complètement d'une sociologie de l'action publique pure et sociologie du droit. Comment est-ce qu'on appréhende le droit à travers une analyse sociologique? Donc ça m'a beaucoup aidé aussi parce que ça m'a permis de... Enfin, ça m'a apporté quelques concepts, quoi. Et puis, troisième élément qui, moi, je pense, est le plus essentiel, c'est que j'ai parlé. J'ai discuté avec d'autres doctorants, j'en ai discuté avec les directeurs de thèse, même avec d'autres profs que j'ai rencontrés autre part. Ça, je pense, c'est super important aussi pour décaler, en fait, mon propos.
Ouais. Je pense qu'on est tous d'accord en tant que doctorant pour se dire que la distanciation, c'est vraiment une phase qui est continue finalement.
Ah bah
dure
oui,
trois
oui.
ans, mec. Ah c'est vraiment complexe. Et du coup, là, c'est vrai que, est-ce que c'est possible aujourd'hui de te demander quel est ton objet de recherche? Alors, est-ce que c'est les trois que tu nous as cités? Est-ce que tu arrives aujourd'hui, après, tu vas bientôt rentrer dans ta troisième année,
ouais.
Est-ce que tu sais finalement quel est ton objet? Est-ce que tu arrives finalement, même en dehors du cercle universitaire, à parler facilement de tes recherches et de cibler aisément ton objet, ou est-ce que ça reste encore compliqué?
Alors, je dirais que non, ça reste encore compliqué. Je pense d'ailleurs que l'expression construire son objet de recherche, pour moi, il est très parlant. C'est qu'il faut revenir d'abord sur le thème de construire. En fait, qu'est-ce que c'est que construire? C'est bien l'idée que on part d'un point et c'est en posant des petites pierres qu'on construit la maison. Et donc la maison, elle est jamais vraiment construite, peut-être une fois que le manuscrit est rendu, et encore j'en suis pas certaine. mais par contre, je pense qu'il y a des éléments, il y a des fondements qui sont posés. Maintenant, je peux dire que oui, effectivement, il y a des fondements qui sont posés. Et je pense que mes fondements, c'est que j'arrive maintenant à trouver trois niveaux, en fait, dans ce que je recherche et ce que je vois. Le premier niveau, qui est un peu le niveau de ce qu'on pourrait appeler le sens commun, que j'avais perçu, j'ai l'impression, depuis le début, parce que c'est un peu ce qui saute aux yeux, c'est la différence qu'on, et dont je parlais au tout début, la différence qu'il y a entre les frontaliers qui, quand on leur parle de leur mode de vie, un des premiers éléments qui leur vient en tête, c'est je sais pas, c'est les trajets, les paysages qui défilent entre la résidence et le travail. Et puis, de l'autre côté, l'administration, moi je parle de l'administration fiscale puisque c'est l'élément qui m'intéresse là, mais toutes les administrations de manière générale pensent à travers la résidence, à travers un point fixe et du coup à travers le territoire. Donc ça, c'est le premier élément qui est vu. Deuxième élément, c'est ce qui est... Deuxième niveau, en fait, c'est ce qui est compris. C'est le problème, du coup, tel qu'il est présenté, tel qu'il est lu à travers les lunettes de l'administration, et qui m'a posé d'ailleurs le plus de problèmes, puisque c'était à travers les lunettes du juridique. Et puis, le troisième élément, c'est ce qui est compris, en tout cas, ce que moi, j'ai l'impression de comprendre, c'est, du coup, éclairer ce paradoxe à l'aide de plusieurs concepts. Et moi, j'utilise notamment des concepts d'action publique pour comprendre, en fait, qu'est-ce que cette manière de construire la mobilité transfrontalière, qu'est-ce qu'elle nous dit de la manière de penser un territoire national, qu'est-ce qu'elle produit sur l'expérience même d'être frontalier, et du coup d'être entre deux législations, qu'est-ce qu'elle produit aussi sur le sentiment d'être frontalier ou non, est-ce que frontalier peut être compris comme un groupe social, comme une condition d'existence, etc. Voilà, ça a des ramifications en fait un peu plus larges aussi sur le rapport au monde social, en fait. Comment est-ce que des divisions administratives, elles ouvrent la voie et elles contribuent à diviser, en fait, le monde social.
Et là, voilà, il nous reste moins 6 minutes. On a dépassé le temps à la partie. Mais je voulais simplement te demander, voilà, quels sont tes gros travaux à faire avant d'attaquer l'écriture du manuscrit. Est-ce que tu as encore des données à recueillir voilà.
Oui, j'ai encore beaucoup de données. Hein. J'en suis quand même... Je dirais que j'ai fait peut-être la moitié du chemin. Et encore, il y a encore plein de chemins. Je pense que j'ai pas encore, que je vais découvrir au fur et à mesure. Mais je pense que j'ai encore, en fait, toute la partie avec les contribuables qui est super intéressante, que j'aimerais bien explorer un peu plus. Pour le moment, j'ai pas assez d'entretien. J'aimerais bien approfondir cette partie-là. Et puis, j'ai quelques petits bouts de méthodologie, j'ai quelques petits bouts d'intro. Voilà, j'écris un petit peu au fur et à mesure, mais c'est pas encore, il n'y a pas encore une cohérence ensemble, quoi. Mais moi, j'imagine ça un peu comme une... Je sais pas comment tu vois la thèse. Mais moi, j'imagine, c'est un peu comme une randonnée, en fait. Et au départ, tu pars, t'as un sac à dos qui est très, très lourd. Et tu sais pas trop quoi en faire. Et tu te dis, le voyage va être vraiment très long, quoi. Ça va être pénible. Et puis, plus ça va, plus tu te rends compte qu'en fait, tu peux te délester de certains éléments. Parce qu'en fait, t'as pas besoin de 10 culottes, t'en as besoin que de 7. Et puis, t'as pas besoin d'avoir un chauffe-plat. C'est pas nécessaire, etc. Et puis, tu fais plein de rencontres dans des refuges qui te mènent au final vers d'autres chemins, etc. Et puis, une fois que tu arrives en haut de la montagne, tu te rends compte que tu n'as pas du tout fait le chemin que tu pensais faire. Et puis, que ton sac à dos aussi, c'est vachement allégé à tel point que tu ne le sens plus trop. Et une fois que je pense que tu as cette sensation-là, c'est que tu es prêt pour une autre rando, donc pour une autre recherche.
Du coup, sur ce chemin, ton objet, ce serait ce sac à dos que tu arrives de mieux en mieux à manier, qui te semble plus facile à transporter, à peut-être à glisser dans ta poche de temps en temps, où il prend parfois une place très importante. Ce serait ça, du coup, ton objet ?
Ouais, je dirais que c'est ce qui te permet de faire un côté très vital, et en même temps, c'est quelque chose qui doit s'alléger, enfin qui doit non, mais qui s'allège en fait au fur et à mesure, parce qu'il y a plein de choses que tu comprends, il y a plein de choses dont tu délaisses, et puis au final, tu gardes que l'essentiel. Voilà.
Bon. Eh bien, merci beaucoup, Marie.
Merci de m'avoir invitée.
Super. Voilà. Eh bien, j'ai pas pensé à la conclusion de ce podcast.
Merci de nous avoir écoutés, en tout cas. Et puis, on espère que ça vous aura aidé.
Oui, voilà, ça c'est vraiment un podcast pour les jeunes chercheurs, doctorants en première, deuxième, même troisième année, quatrième, voilà, pour vous aider. J'espère qu'on vous aura aidé un petit peu à comprendre que l'objet, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, c'est un peu l'intitulé de cette série de podcasts. Et j'espère que ça vous aidera pour vos recherches. Merci et au revoir.
Au revoir.